Bien, l'Organisation mondiale de la santé a finalement reconnu hier que de nouvelles données scientifiques laissent croire que le virus de la COVID-19 peut se transmettre de façon aérienne, de façon plus importante en tout cas que ce qu'on croyait. Lundi, un groupe de 239 scientifiques internationaux appelait les autorités de la santé du monde entier, et en particulier l'OMS, à reconnaître que le nouveau coronavirus peut se propager dans l'air bien au-delà des 2 mètres et recommander en conséquence une ventilation plus vigoureuse des espaces publics intérieurs. Carl Weiss est microbiologiste spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal. Bonjour, Dr. Weiss.
Bonjour, M. Lacroix.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette fameuse lettre des 239 scientifiques internationaux?
Ben, on apprend quelque chose qu'on suspectait déjà, c'est-à-dire que ce qu'il faut faire finalement avec la COVID-19, c'est que, un, il ne faut pas être dogmatique, mais on a rapidement su, je vous dirais, dans les premiers mois, que la transmission se faisait bien sûr par gouttelettes, mais que l'aérosolisation du virus pouvait également se faire. Et c'est pour ça qu'il fallait aussi pêcher, je dirais, par excès de prudence dans certains cas et mettre des mesures plus musclées en place pour empêcher cette propagation. En réalité, ce qu'on sait, c'est que la majorité du temps, vous savez, il y a plusieurs façons de transmettre des virus.
Oui.
Alors, on va essayer de faire un cours sans, hein, là, entre les aérosols et entre ce qu'on appelle les gouttelettes. Quand vous parlez ou quand on émet des gouttelettes, qui sont des particules relativement grosses, qui peuvent donc être sous la loi de la gravité, c'est-à-dire que à un moment donné, ces gouttelettes se déplacent dans l'air, mais tombent et habituellement dans un rayon, on va dire, d'autour d'à peu près 1,50 m à 2 m autour de vous. Mais quand vous éternuez, par exemple, ou quand vous allez tousser, vous allez pouvoir émettre des toutes petites particules qui, elles, vont pouvoir voyager beaucoup plus loin, de façon lointaine, donc jusqu'à peut-être 30 pieds dans certains cas.
Ah oui.
Et c'est ce qu'on appelle, ça c'est l'extrême, et oui, c'est ce qu'on appelle des aérosols. Maintenant, il faut savoir aussi que toutes ces conditions-là sont souvent faites dans des environnements qui sont fermés, c'est-à-dire quand on est dans une pièce, et quand on est à l'extérieur, évidemment, si vous avez du vent, si vous avez des mouvements d'air différents, c'est sûr que ce n'est pas un modèle parfait sur le mouvement de ces particules-là.
Oui.
Mais ce qu'on sait maintenant, et on l'a vu même, on l'a soupçonné fortement, on l'a vu même au Québec, dans certains cas, on a vu que, par exemple, les systèmes de ventilation pouvaient être probablement la cause d'une certaine transmission, et on l'a même fortement suspecté, je ne sais pas si vous vous rappelez, du bateau Ocean,
oui,
qui était coincé au Japon, où des gens étaient restés dans leur cabine pendant des jours et des jours, et avaient finalement été contaminés probablement par le système de ventilation.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque le virus peut rester, les systèmes de ventilation sont pas suffisamment efficaces, le virus peut rester plus longtemps dans un espace clos, c'est ça?
Ça veut dire que la transmission du virus, elle n'est pas exclusivement qu'avec des gouttelettes, même si ce qu'on appelle les gouttelettes sont le mécanisme de transmission principal du virus, c'est-à-dire majoritairement, la plupart du temps, le virus va être transmis lorsque vous êtes proche de quelqu'un et que cette personne-là va donc vous parler, va être en contact avec vous, et c'est la façon préférentielle. Mais que dans certains cas, possiblement, l'aérosolisation des particules pourrait transmettre le virus, et c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est qu'on ne pourra pas demander à tout le monde de porter des masques N95 et de changer les systèmes de ventilation, etc. C'est pas réaliste, et probablement que l'impact risque d'être également minime, mais il faut garder en tête que dans certaines situations, ça pourrait être la cause de transmission du virus. Ce qui est important de se rappeler dans l'histoire, c'est que c'est toujours un ensemble de mesures, donc surtout les masques, même les masques ordinaires, donc le fait d'avoir une barrière devant la bouche, devant le nez, le fait d'être la distanciation jusqu'à un certain point, donc on sait que 1 mètre c'est le minimum, 2 mètres c'est mieux, mais qu'à partir d'un certain nombre de mètres, vous perdez un petit peu l'efficacité. C'est-à-dire que vous soyez à 10 mètres, ça ne sert plus à grand-chose, que 10 mètres ou 6 mètres, ça ne change plus grand-chose. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la distanciation, c'est les règles générales d'hygiène.
Bon, mais il reste une chose, c'est que cette nouvelle-là, en fait, a commencé à circuler lundi, et c'est le moment où Valérie Plante a annoncé qu'on allait obliger le port du masque dans tous les édifices publics, etc. Est-ce que ça peut représenter une solution, en tout cas une partie de la solution?
Alors, certainement une partie de la solution. Vous savez, moi, j'ai été un des ceux qui, depuis très longtemps, suggère le port universel du masque. Et il ne faut pas que les gens voient ça comme quelque chose de contraignant. Hein.
Oui.
C'est une solution qui, j'espère, sera temporaire le temps qu'on a un vaccin, qu'on ait des traitements. Et une fois qu'on aura un vaccin, un traitement, une façon de contrôler l'épidémie, le port du masque deviendra probablement obsolète. Mais c'est une façon, en effet, efficace, probablement la plus efficace pour réduire la transmission du virus entre les individus. Donc, c'est définitivement quelque chose qui est positif. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas non plus, en disant maintenant que je porte un masque, je vais oublier tout le reste, c'est-à-dire je vais pouvoir, la distanciation physique, quand elle est possible, je vais l'oublier, et les règles d'hygiène de base. Donc il faut, oui, le masque, et c'est très important, et il ne faut pas non plus que les gens, parce qu'il circule énormément de choses sur l'Internet au sujet des masques, les masques, vous savez, moi j'en porte pendant des heures à l'hôpital, et ça n'affecte pas ma quantité d'oxygène, là,
oui.
Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une habitude à prendre. Vous voyez souvent que culturellement, il y a des pays où le port du masque, ça fait partie de la normalité. Donc tout ça mis ensemble, oui, le masque, c'est très efficace, c'est important, puis je pense que la décision de Mme Plante est une très bonne décision.
Bon, est-ce qu'on devrait l'implanter à la grandeur du Québec maintenant? Parce que on jongle avec cette idée-là, la santé publique. François Legault, lui, semble moins... comment dire, pressé, en ce sens que c'est pas qu'il est contre de ce que moi je décode, en tout cas, mais c'est davantage qu'il voudrait faire en sorte que ça devienne une habitude qui ne soit pas imposée, mais que les gens le fassent d'eux-mêmes pour que ça soit peut-être plus mieux perçu par la population.
Ben, je pense une question d'éducation. Je pense aussi que la très longue hésitation des messages qui ont été envoyés ont fait que je sais pas combien la population maintenant croit en cette valeur du masque ou pas, parce que on est parti de ça valait pas grand chose, hein, on essaie d'y penser que ça on va le recommander. Donc
ouais.
Tout ça mis ensemble, je sais pas comment le message est actuellement perçu. Moi, je pense depuis longtemps que le masque a été un outil très important pour réduire la transmission. Vous savez, dans mon hôpital, on a implanté le port du masque universel il y a déjà des mois et des mois. On a eu quasiment pas de transmission nosocomiale, c'est-à-dire à l'intérieur de l'hôpital du virus. Pourtant, on a été l'hôpital désigné en premier au Québec pour la COVID-19. On a traité des centaines, voire des milliers de patients, si on compte tout le monde qui est passé dans l'hôpital. Donc, le masque a quand même une certaine protection, c'est évident. C'est clair que ça ne doit pas être quelque chose d'obligatoire, dans le sens qu'il ne faut pas que les gens voient ça comme quelque chose qu'on leur impose de façon négative. Il faut avoir une certaine compréhension à l'égard du masque. C'est comme on avait déjà dit dans le passé, ça ne doit pas devenir quelque chose où on va donner des amendes, où on va arrêter les gens. Au contraire, je pense qu'il faut essayer d'expliquer aux gens, leur distribuer des masques et leur expliquer le bien fondé et le pourquoi du port du masque. Donc oui, ce serait très utile, surtout que vous avez vu qu'au Québec, ces derniers temps, on est dans une phase de déconfinement accéléré. Hein.
Ouais.
Vous avez de nombreuses occasions et habituellement, les pays qui ont fait ça, on commence à connaître des éclosions et des cas de reconfinement. Alors, ça passe par l'Australie, ça passe par des pays d'Europe, ça passe par des pays du Moyen-Orient. Donc, vous voyez ce qui se passe dans ces pays-là.
Et il y a un exemple, ce matin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire cet article dans la Presse Plus. On a beaucoup parlé de ce fameux party d'ados là, qui a eu lieu dans le secteur de Mercier sur la Rive-Sud. Mais on a un bel exemple de la démonstration de ce que ça peut faire là, dans une fête d'adolescents où on devait être 10 au départ, puis finalement, ils se sont retrouvés 60. Et puis, les gens respectaient pas les mesures de distanciation. Personne portait de masque, puis tout le monde dansait ensemble. Puis c'était vraiment comme s'il y avait jamais eu de COVID-19. Le résultat, ben, c'est qu'il y a une trentaine de personnes à cette fête-là qui ont été infectées. Il y a des commerces qui ont dû être fermés. Donc, on voit immédiatement les conséquences que ça peut avoir.
Tout à fait. Il ne faut pas oublier que les 30 personnes en question ont peut-être déjà infecté d'autres personnes. Et si on sait que ce virus-là, chaque personne infectée peut en infecter jusqu'à 3 nouvelles, alors imaginez-vous, c'est déjà 30 fois 3, et ainsi de suite. Donc, ce sont des chaînes de transmission rapides et explosives qui peuvent arriver extrêmement vite. On sait qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques, qui peuvent continuer à le transmettre. On sait qu'on est l'été et que les gens sont dehors beaucoup et ne respectent pas toujours toutes les consignes. Alors, si vous portez pas de masque en plus, tous les efforts de toute la population qui ont été faits pendant longtemps risquent d'être mis à néant rapidement. Et personne ne veut retourner dans un confinement comme on a connu.
Docteur Weiss, hier, j'ai eu des commentaires. Il y a des gens, il y a même quelqu'un qui me l'a dit en onde. C'est pas grave, la COVID-19. C'est juste, c'est moins grave qu'une grippe, etc. Pour la énième fois, puis je le sais que ça fait 100 fois que vous le dites, là. C'est beaucoup plus grave. En fait, c'est grave, la COVID-19. C'est plus grave qu'une grippe ordinaire, là.
C'est nettement plus sérieux que l'influenza ordinaire. Je pense, vous savez, on a déjà eu même une pandémie d'influenza en 2009. On n'a pas arrêté de faire tourner la planète. Je pense que juste regarder ce que la COVID a fait durant les derniers mois, il n'y a à peu près rien depuis la Deuxième Guerre mondiale qui a le moindrement fait 5% de ce que cette COVID-19 a fait à cause de l'impact qu'elle peut avoir. Oui, ça tue les gens. Regardez malheureusement ce qu'on a vécu au Québec et même chez les jeunes. C'est sûr que les gens peuvent être proportionnellement moins malades ou plus asymptomatiques, mais on voit aussi des jeunes qui, à l'occasion, sont malades, sont hospitalisés, finissent aux soins intensifs, sont intubés. Et puis, c'est une maladie qui a encore des secrets à découvrir. Et on a découvert que cette maladie, par exemple, a une capacité, ce que j'appellerais thrombotique, c'est-à-dire qu'elle favorise la formation de caillots sanguins.
Ouais.
Et ces caillots sanguins-là peuvent avoir des problèmes majeurs. Hein. Vous avez entendu parler, vous savez, le syndrome de Kawasaki chez les jeunes enfants. On a entendu parler des accidents vasculaires cérébraux chez les jeunes adultes. On a entendu parler d'embolie pulmonaire. À tel point que nous, tous les patients qu'on a hospitalisés ou qu'on hospitalise actuellement, on leur met d'emblée des médicaments pour éclaircir le sang parce que le risque de faire justement ces caillots-là est très élevé. Donc la COVID-19, on ne fait pas ça avec l'influenza, on ne fait pas ça avec la grippe. C'est vraiment un microbe d'une autre dimension.
Dr Weiss, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Le Dr Carl Weiss est microbiologiste spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal. Non, ce n'est pas une grippe ordinaire. La COVID-19, c'est beaucoup plus sérieux.